Frères et sœurs, avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Qui que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez juste ou pécheur, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Bienvenue dans cette maison pour ce temps de culte. Bienvenue en particulier à chaque jeune qui est présent ou qui va venir pour ce temps de culte, pour cette dernière journée de catéchisme de l'année avant les grandes vacances déjà qui arrivent. Et bienvenue en particulier à Ulysse qui a donc demandé à faire son baptême parmi ses collègues de l'école biblique ici, donc ce matin pendant ce culte. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez au début du psautier français dans le petit livret. Bénissons Dieu, le seul Seigneur.
Nous allons traverser le sermon sur la montagne à l'occasion de ce culte et ouvrons ce sermon comme il se doit par une réinterprétation des béatitudes qui seront pour nous aujourd'hui l'expression de notre louange.
Entraînez vers la joie ceux qui ont confiance et acceptent les limites de leurs esprits. Le règne illimité de Dieu est pour eux. Entraînez vers la joie les endeuillés, leur solitude sera brisée. Entraînez vers la joie ceux qui s'accomplissent dans l'exercice de l'obéissance à la Torah, ils hésiteront l'humanité véritable. Entraînez vers la joie ceux qui ont faim et soif de la justice, selon Dieu, ils seront nourris. Entraînez vers la joie ceux qui exercent la miséricorde, il leur sera la fée miséricorde. Entraînez vers la joie ceux qui ont le cœur purifié, ils verront Dieu. Entraînez vers la joie ceux qui travaillent à l'installation de la paix selon le projet de Dieu pour le monde. Ils seront cités publiquement comme fils de Dieu. Amen.
Et nous poursuivons notre louange par le chant du psaume 62 dans le psautier français, l'harmonisation de Genève, donc 62b, et nous chanterons les strophes 1, 3 et 5.
Thank you.
Nous prenons place pour entendre une expression de la volonté de Dieu à notre égard.
Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment reviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux.
Nous nous recueillons dans la prière.
Pouvons-nous être du demi-sel ou une demi-lumière? Pouvons-nous enlever quelques mots, quelques idées de la Bible pour que ce soit plus facile? Pouvons-nous éviter de nous impliquer? Pouvons-nous éviter de pratiquer ces paroles que nous recevons et que nous appelons l'Évangile? Cela nous semble parfois si difficile de faire tout ce qu'il y a à faire. Tellement difficile d'être à la hauteur de nos responsabilités. Nous reconnaissons que nous n'y arrivons pas seuls, que nous avons besoin d'aide. Amen.
Quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. En effet, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est aux cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent?
Nous pouvons exprimer notre foi en ces termes.
Je crois en Dieu, le tout proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, face divine de l'homme et face humaine de Dieu, humble, souffrante, crucifiée. Il accepta la mort mieux que nous n'acceptons la vie. Il vient pour libérer l'homme de ses idoles et nous donne sa paix. Je crois en l'Esprit Saint qui nous unit au Christ dans le monde de Dieu. Ici et maintenant, événement de l'Église, dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen.
gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Et donc, bienvenue à Ulysse, si tu veux nous rejoindre. Bienvenue à ceux qui l'entourent. Donc, il y a Olivier, il y a Muriel, si elle a pu se libérer, je ne sais pas. Il y a sa marraine. Il y a peut-être d'autres personnes qui viennent entourer Ulysse. Alors, vous demandez le baptême d'Ulysse. Il le demande aussi, en fait. Il le demande depuis des années, avant que nous arrivions à organiser, en fait, ce baptême. Alors, on a un peu honte, parce que ça fait, quoi, longtemps que tu demandes. Alors, c'est vrai que tu as participé à l'école biblique, avec bien participé, même très bien participé, et nous en sommes fiers, même si, à vrai dire, le bénéfice, le mérite ne nous en revient pas uniquement à nous. Il y a le grand-père pasteur, hein, qui a beaucoup joué aussi, la grand-mère, femme de pasteur, et puis elle-même une grande croyante, et puis les parents aussi un peu, mais c'est toujours difficile pour les parents, hein, vous savez, on fait ce qu'on peut. Ouais. Et bon, le baptême, de toute façon, c'est pas comme le bac, un prix à gagner quand on a bien travaillé à l'école biblique, bien machin. Non, en fait, c'est le baptême, c'est comme une porte qui est ouverte et puis on rentre ou on ne rentre pas, finalement. Une porte qui a été ouverte pour nous depuis toujours, un signe de cette grâce de Dieu qui nous accueille et au nom duquel on peut accueillir volontiers dans l'Église. Alors, Ulysse a préparé une déclaration de baptême. Alors, il l'a fait tout seul. Alors, c'est vrai que moi, j'ai dit non, c'est Olivier qui a fait la moitié. Non, c'est Ulysse qui l'a fait. Et donc, vous la trouverez d'ailleurs à la sortie, au dos de la prédication que j'ai proposée, pour le garder en mémoire. Alors, tu peux nous dire ce que tu as préparé ?
Pour commencer, j'aimerais remercier Dieu d'être là avec vous ce matin. Depuis que je suis née et que j'ai porté pour la première fois les yeux sur le monde, je porte ce remerciement comme une odeur qui me conduit chaque jour. L'événement de la naissance, quand un père et une mère voient pour la première fois leur enfant, on voudrait revivre ces félicitations et lui donner un sens par tout ce que nous apportons dans le monde. Dans la vie cependant, il y a des jours de toutes sortes, ceux dont on ne voudrait jamais qu'ils aient lieu, d'autres qui dépassent nos rêves les plus fous, d'autres encore qui ne sont ni l'un ni l'autre. Mais il ne faut jamais penser que tout va se terminer en enfer ni au paradis. Il faut juste ne pas craindre l'avenir, ne pas se retourner non plus et faire face à ce qui est devant nous. On pense que la mort est le pire de tous les malheurs réunis et qu'elle arrache les vivants à la vie. En partie, oui. Mais s'il n'y avait pas de mort, on aurait partout des australopithèques. Il faut alors penser que c'est un élément de la vie et qu'il ne faut pas la fuir. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, qu'il faut laisser à d'autres, et des choses que nous ne pouvons qu'espérer. Tout cela, ce sont des choses que j'ai pensées en parlant avec des amis à l'oratoire, qui est pour moi une fête des amis. C'est à cette fête que je veux participer en demandant le baptême.
Un grand merci, Ulysse. Alors, parents, parrains et marraines, Ulysse, par son baptême, sera chez lui dans la communauté chrétienne. C'est sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne l'y retiendra, et si un jour il venait à s'en séparer, eh bien sa place resterait toujours marquée, toujours prête pour te recevoir. Pour répondre à la bonté de Dieu qui te reçoit dans son alliance, vous resterez pour Ulysse, dans la mesure du possible, un exemple et un appui. Vous prierez pour lui, vous le soutiendrez, vous l'instruirez, vous l'aimerez, afin qu'il ait la possibilité de développer une foi d'adulte et qu'il puisse prendre part, si tel est son désir un jour, sa place comme membre de l'Église de Jésus-Christ. Alors Ulysse, tu peux t'approcher pour recevoir le baptême. Ulysse, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ulysse, que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Qu'il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne, qu'il l'éclaire de sa lumière, de son amour, de sa force. Ne crains pas, dit l'Éternel, car j'ai tout donné pour toi, je t'ai appelé par ton nom, tu fais partie de ma famille. Nous prions Dieu. Ô notre Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Ulysse, pour ce qu'il est, pour ce qu'il espère, pour ce qu'il apporte. et pour cette grâce qui lui est donnée, qui vient de toi. Nous te prions pour lui et pour sa famille, ceux qui sont ici, ceux qui sont au loin et qui n'ont pas pu venir. Donne à ses parents, donne à tous ceux qui auront à prendre soin de lui, ici, à l'école, dans la famille, au scoutisme. Donne-leur de pouvoir donner à Ulysse tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse s'épanouir et recevoir encore 1000 qualités supplémentaires dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour qui ne meurt jamais. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour pour chacune et chacun. Amen. Un grand merci. Et je vous propose de chanter ensemble le cantique 204, en fait, les deux strophes. Seigneur, dirige et sanctifie. Merci. Il faudra remplir ça. Ah oui, je l'ai vu, oui. Vous pouvez prendre place. Alors non, les choses ne s'arrangent pas toujours, en fait. Comme le dit Ulysse qui vient d'être baptisé et qui, du haut de ses 10 ans, reconnaît que nous finirons bien par mourir un jour, et puis que dans notre existence, il y a des jours de toutes sortes, des jours qui dépassent nos rêves les plus fous, tellement ces jours sont beaux et magnifiques, mais aussi des jours dont nous ne voudrions qu'il n'ait jamais eu lieu. Alors les choses ne s'arrangent pas toujours dans ce sens, mais pourtant, nous dit-il, il y a quelque chose, une joie, celle d'être ensemble et celle d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde par notre être et peut-être aussi par quelque chose de notre vie. Et ce message d'Ulysse m'a fait penser à un passage où Jésus nous parle de notre espérance en ce monde. Et à mon avis, cette espérance que propose Jésus est plus proche de ce qu'en a témoigné Ulysse, plus que de ce que certains théologiens ont fait de l'espérance chrétienne. Alors je vous laisse entendre ce passage, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 31 à 34. Jésus nous dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père qui est dans les cieux sait très bien que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Nous prions Dieu. Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je suis prêt à servir. Parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie, et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant amour me convertisse entièrement, me convertisse à toi, afin que rien ne s'oppose en moi à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, que j'aie en perfection l'amour et de toi et de tes enfants que tu me demandes d'aimer. Une légende assure que Luther aurait dit « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, aujourd'hui je veux quand même planter mon pommier. » Et ça, cette attitude-là face à la vie, c'est autre chose que de l'espérance, parce qu'effectivement, à ce moment-là, les choses ne s'arrangent pas en fait. C'est faire ce que l'on pense juste, tranquillement, sereinement, sans se soucier du lendemain. Ou plutôt s'en soucier en fait, car oui, planter un pommier est un projet d'avenir, une visée pour demain. Mais cette visée n'est pas utilitariste, elle ne mesure pas simplement le rendement, mais la qualité de la démarche. Le fait d'apporter quelque chose de nouveau et de bon pour ce monde qui le mérite, et qui le méritera jusqu'au bout. Alors bien sûr, le résultat compte pour nous, et l'on préfère pouvoir voir mûrir les pommes du pommier qu'on a plantées. Mais dans cette façon de voir l'existence que nous propose cette phrase apocryphe de Luther, eh bien, c'est une façon de voir l'existence avec la vérité d'une démarche une vérité de démarche qui justifie cette démarche, en fait, qui suffit à la justifier, sans même les fruits. Dans un sens, c'est que Jésus lui-même fait sur la croix, comme un geste qui ne produit rien d'autre que de dire l'attachement qu'il a pour ce monde et pour ceux qui l'habitent. Et c'est aussi le geste de Martin Luther, petit moine de province, qui se lève et qui appelle l'Église mondiale à se réformer. Aucune chance. Et pourtant, il a pu voir quelques fruits. En réalité, personne n'a jamais retrouvé où Luther aurait dit cette phrase. Dans quel livre, dans quelle prédication, dans quelle lettre, ou peut-être à table, entre deux bières. Peut-être ne l'a-t-il en réalité jamais prononcé, cette phrase, mais qu'elle a été déduite de sa pensée par ses disciples. Mais en tout cas, les circonstances où cette citation est sortie sont significatives. Cette citation est apparue en 1940 parmi les chrétiens allemands désespérés de la puissance et de la folie d'Hitler. À quoi bon lutter face à une telle fureur? Comment faire quelque chose? Eh bien, cette phrase sur le pommier est venue comme pour s'encourager mutuellement à oser ne serait-ce qu'un geste positif, ne serait-ce qu'un bon geste qui affirme le bien et qui se tourne vers la vie. Même à la veille de la fin du monde, planter un pommier. Et chercher quel est ce pommier finalement, quel est mon pommier que je veux planter aujourd'hui en ce monde en réponse à mon unicité. Alors cette parabole du pommier de Luther dit une espérance qui est de l'ordre de la beauté, de l'intention et du geste. Cette parabole dit l'importance de la dimension spirituelle dans l'existence, au-delà simplement de la survie du corps. Et cela, je crois, nous en avons vraiment besoin pour comprendre la vie. Souvent, notre espérance, bien sûr, est en ce monde d'abord. Comme le dit Jésus, pour notre survie en ce monde, dans de bonnes conditions, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et Jésus ne se moque pas de ses besoins, bien sûr. Il les connaît et il les reconnaît comme légitimes. Notre corps a besoin d'être nourri, abreuvé, protégé, comme celui de n'importe quel animal d'ailleurs. Notre intelligence a aussi besoin d'être nourrie, d'être abreuvée, d'être habillée. Notre sensibilité, notre cœur, notre foi, notre talent artistique, toutes ces dimensions ont besoin d'être nourries, d'être abreuvées, d'être revêtues. Dieu le sait, bien sûr, nous dit Jésus. Et il espère que chacun de ses enfants aura ce minimum. Mais cela ne renferme pas la totalité de l'espérance, car ça n'explique pas pourquoi nous aurions envie de planter un pommier si la fin du monde était pour demain. Cela n'explique même pas pourquoi l'amitié est si importante pour nous. Et encore moins l'amour, ni pourquoi il y a des choses pour lesquelles nous accepterions de donner notre vie. Ça n'explique pas non plus l'art, parce que tout ça, ça n'apporte rien à nos besoins basiques du corps. Au contraire, ça disperse la ressource. Et si l'horizon de notre espérance était dans cette seule survie, comme le dit Ulysse, alors nous sommes fort démunis parce que, de toute façon, sur ce plan-là, ça se terminera mal, en fait, puisque nous mourrons. Et que nous sommes exposés à de diverses catastrophes qui sont déjà assez pénibles à gérer comme ça, du point de vue matériel, du point de vue de la survie, sans qu'en plus nous ayons l'impression de perdre toute notre vie, notre dignité, toute espérance quand notre santé est mise en cause, quand nous perdons notre travail, notre maison ou un être cher. Ces besoins de nourriture, de boissons, de vêtements sont réels, sont légitimes. Dieu même y travaille, nous dit Jésus, et nous y travaillons tous ensemble. En gros, nous avons quand même vraiment, parmi ceux qui ont le plus de chance, ce travail est actuellement assuré par le monde économique et par le cadre moral minimum que sont les droits de l'homme, finalement, et du citoyen. Donc nous avons bien de la chance, nous. Mais qu'il soit athée, qu'il soit agnostique, qu'il soit croyant, tout philosophe, toute personne qui réfléchit est convaincue, je pense, que ça ne suffit pas, cette dimension-là. Qu'il faut aussi une dimension spirituelle qui vienne donner du sens, au-delà de la simple question de la nourriture, de la boisson et de la protection minimale. Et pour remplir cette question du sens, nous sommes beaucoup plus libres que nous ne l'avons été par le passé. Comme nous pouvons choisir d'acheter plein de choses, non pas au magasin au pied de chez nous, mais aux quatre coins du monde par Internet, nous sommes libres de choisir ce qui donne du sens à notre vie. Choisir mon pommier dans le verger où je suis né, ou bien dans un oranger venu de Tunisie ou de je ne sais où. Personnellement, je trouve génial cette liberté de choix et cette sincérité qu'elle permet. Je trouve que l'évangile du Christ, si je puis dire, est un bon produit sur ce marché. Un vraiment bon produit qui n'a pas à rougir de la concurrence, bien au contraire. D'abord parce qu'il est gratuit, et ensuite parce que l'évangile n'écrase pas notre droit à une véritable espérance, pas même dans les choses de ce monde, puisque Dieu aime ce monde et nous aime dans ce monde. Et puis, quel souffle il y a dans cet évangile ! Quelle magnifique mise en valeur de la dignité de toute personne, même quand elle n'est pas très en forme, finalement. Et puis cette place centrale donnée à la libre responsabilité, à la bonne volonté gratuite, à la qualité des relations. Oui, l'évangile est un des excellents choix possibles pour dire ce que nous espérons, pour cette dimension spirituelle qui dépasse les simples survies du corps. C'est ce que disait James avec son joker, je crois, dimanche dernier. Mais l'évangile, c'est plus que ça aussi. Ce n'est pas simplement une réserve du sens, c'est une réserve de sens, oui, mais c'est aussi ce sur quoi nous comptons finalement pour que notre espérance se réalise. Alors sur quoi comptons-nous en fait pour que ça se réalise ? Cette question est en réalité bien plus importante et bien plus déterminante, je crois, que tout le reste. Et c'est là-dessus que Jésus attire notre attention dans ce passage. Certains espèrent s'en sortir par la sagesse. Et cela aide effectivement, ça éclaire, ça libère et ça peut nous aider à progresser dans le domaine moral, dans le domaine théologique. Cela peut nous donner de mieux comprendre la réalité et son fonctionnement, les causes, les conséquences et donc de s'organiser un peu. Jésus n'est pas contre l'intelligence, bien sûr. Au contraire, il encourage à réfléchir chacun, chacune par soi-même. Il discute, il philosophe, il enseigne, il pose des questions. Et donc il n'est pas contre la sagesse, cette sagesse qui consiste à nous unir, à nous soutenir, bien sûr, les uns les autres. Mais il ne nous dit pas de placer notre espérance dans la sagesse, ni dans la morale d'ailleurs. C'est juste un cadre de base pour s'organiser un peu. Alors certains espèrent s'en sortir par la providence de Dieu. Comme dans bien des psaumes, comme les prophètes qui attendaient que le Messie vienne et qu'il règle les problèmes sur la terre, qu'il fasse la paix, qu'il donne à manger, qu'il guérisse, qu'il apporte le royaume de Dieu sur la terre. Les disciples de Jésus ont vraiment espéré qu'il serait le Christ et qu'il accomplirait ça. Alors oui, il est le Christ, mais il n'a pas imposé la paix, il n'a pas supprimé toute maladie, toute famine, il n'a pas rendu les lions végétariens, ni les moustiques non plus. Alors après Jésus, bien des chrétiens ont espéré le retour du Christ. Bon. Tant de personnes fondent ainsi leur espérance sur l'idée que Dieu conduirait l'histoire, faisant pleuvoir quand il pleut, faisant naître et mourir alors, faisant tomber malade ou guérir, donner à manger à ceux qui ont faim. Alors c'est en partie vrai parce que Dieu est actif et agit. Il agit pour le bien, pas pour le mal. Mais c'est aussi en partie faux cette idée de providence de Dieu qui maîtrise l'histoire parce qu'il n'est pas un magicien. Et cette façon d'espérer tout en Dieu pour qu'il accomplisse notre espérance, c'est source de bien des angoisses, de bien des culpabilités mal placées. Comme si c'est nous, avec nos fautes, avions entravé cette bonne providence de Dieu. C'est source de bien de perte de foi en Dieu, malheureusement. Mais Jésus ne nous dit pas, dans ce passage, d'espérer en Dieu. Il ne nous le dit jamais, d'ailleurs. Il dit de lui faire confiance. Il nous dit que Dieu est au courant de nos besoins et qu'il nous aime, et donc qu'il y travaille comme il peut, comme il veut, et il fait sans doute au mieux, par définition. Mais alors, si Jésus ne nous dit pas d'espérer en notre propre sagesse, s'il ne nous dit pas d'espérer en Dieu, Que nous propose Jésus ? Eh bien, contrairement à ce que l'on pense parfois, Jésus ne nous dit pas une seule fois d'espérer. Ça n'appartient pas à son vocabulaire et ce n'est pas son approche, en fait. Pourtant, la notion d'espérance était importante dans l'Ancien Testament, dans bien des psaumes, par exemple, et puis dans ces prophètes qui attendaient le Christ, qui espéraient le Christ. Mais pour Jésus, non. Alors pour l'apôtre Paul, ça sera important aussi l'espérance, mais le mot « espérance » ni le verbe « espérer » n'est pas une seule fois dans ce que nous propose Jésus, dans le message de Jésus, selon les quatre évangiles, pour une fois unanime, j'allais dire. Il y a pourtant un contenu dans notre espérance, dans l'évangile, pour notre espérance. Il y a une conception de ce dont nous avons besoin pour vivre et pour vivre bien, en particulier de la nourriture pour nous donner de l'énergie pour avancer, de la boisson pour calmer notre fièvre et nous donner une paix, et des vêtements pour nous protéger. Il y a aussi quelque chose qui donne sens à notre vie, quand bien même elle toucherait à sa fin, un amour qui peut se manifester dans ce pommier, dans notre pommier, celui que nous voudrions encore planter si nous étions à la fin du monde aujourd'hui. Et donc notre espérance a un contenu par l'Évangile. Mais Jésus ne nous dit pas d'espérer. Jésus propose un autre rapport finalement au présent, au passé et à l'avenir, au futur. Jésus ne nous dit pas d'attendre patiemment un lendemain meilleur. Il ne nous dit pas d'attendre le monde futur où tout sera beau. Au contraire, Jésus nous dit de nous occuper d'aujourd'hui. Et la question d'aujourd'hui, selon Jésus, c'est ni d'espérer ni d'attendre, mais c'est de chercher. Et c'est bien plus actif, bien plus engageant aussi que d'espérer. C'est vivre aujourd'hui, en fait. Chercher premièrement, chercher avant toute chose, et chercher par-dessus tout le royaume de Dieu et sa justice. Alors chercher, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux sens en fait au mot chercher, en français comme en grec d'ailleurs. On peut chercher comme on cherche des champignons dans la forêt, quelque chose qui existe pour le retrouver. Et puis on peut chercher comme on cherche à faire plaisir à quelqu'un qu'on aime. Le royaume de Dieu et sa justice sont à chercher dans ces deux sens-là en même temps. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit à chercher, un endroit spécial qui serait le paradis. Non, le royaume de Dieu, c'est l'action de Dieu. Et c'est ça que nous pouvons chercher. Et plutôt d'espérer que l'action de Dieu règle nos problèmes, on peut déjà ouvrir les yeux et voir qu'il a agi dans le passé et qu'il agit dans le présent, en voir les signes, voir son action dans le monde, qu'il agit d'abord de lui-même dans le monde, parce qu'il ne nous a pas attendus pour que le monde avance, évolue, mais aussi qu'il agit dans la personne qui est à côté de moi parfois, et puis peut-être à travers moi aussi, en moi peut-être. Alors que dans le fait d'espérer, il y a en germe une sorte de dégoût du monde finalement, de ce monde et du jour où nous vivons pour déplacer notre espérance ailleurs dans le futur. Par contre, quand on cherche les traces de Dieu, on ouvre les yeux sur des réalités, et sur des instants qui sont plus beaux que nos rêves les plus fous, comme dit Ulysse tout à l'heure. Nous pouvons voir que le monde est bien moins mauvais qu'il en a l'air. Et nous pouvons voir que notre vie, que nous-mêmes et que notre voisin sont déjà au bénéfice finalement d'un processus de résurrection et de vie, mais pas dans une espérance ou dans une attente, mais réellement maintenant. Et ce règne de Dieu, cette action de Dieu, on peut la chercher comme on cherche à faire plaisir quelqu'un. Et je crois que c'est même précisément cela, finalement. C'est bien plus actif qu'une espérance, ça. C'est une démarche délibérée. Ça se fait dans la prière, bien sûr, mais ça se fait aussi en y consacrant une part de nous-mêmes, de nos ressources, de notre temps, de notre énergie. Et dans cette double recherche de l'action de Dieu, du règne, de là où Dieu a régné, règne dans notre vie aujourd'hui, il y a le passé, le présent et le futur qui s'articulent et qui se construisent. Un passé, un présent et un avenir dont nous sommes au bénéfice et auquel nous participons en fait un peu vraiment. Nous cherchons le royaume de Dieu, nous cherchons le royaume de Dieu et nous cherchons sa justice aussi. Alors chercher la justice de Dieu, c'est bien plus engageant que d'espérer sa justice. Alors c'est une bonne idée d'espérer aussi sa justice, ça n'empêche pas. Parce que sa justice, c'est encore de l'amour, c'est pas une sorte de tribunal terrible où Dieu va éliminer certains et en choisir d'autres. La justice de Dieu, c'est encore de l'amour. Comment en serait-il autrement ? Sa justice, elle garde le meilleur de chacun, elle regarde, elle reconnaît le meilleur de chacun et de chacune d'entre nous. Et puis elle irrigue en profondeur notre être, comme si nous étions un arbre, nous dit le psaume premier. Et il irrigue aussi ces pommiers que nous voulons planter. Mais chercher la justice de Dieu, c'est bien plus engagé encore que de chercher son action, je crois. Chercher sa justice, c'est reconnaître sa puissance de transformation et c'est s'y associer par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, par nos projets. Et par ce pommier aussi, que chacune et chacun sommes dignes de mettre en terre. Parce que nous savons, oui, que nous en sommes capables de planter notre pommier. Mais de toute façon, toutes choses nous seront données en plus. Amen. Un grand merci à Jean-Dominique Pasquet pour cette lecture, finalement, d'une belle page du cinquième évangile, donc, puisque Jean-Sébastien Bach est le cinquième évangéliste, c'est bien connu. Je vous propose maintenant de chanter ensemble un psaume de louange, le psaume 36 dans le psautier français. Les trois strophes de ce psaume « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime ». Vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces. Alors d'abord, il y a une nouvelle feuille rose que vous trouverez donc à la sortie, que notre sacristain est allé chercher pendant le culte. Donc ceux qui ne l'ont pas reçue par la poste peuvent prendre donc la nouvelle feuille rose sur la table à la sortie, avec, si vous le désirez, le texte de la méditation que je vous ai proposé, et puis avec le texte d'Ulysse derrière. Aujourd'hui, nous avons donc une journée d'éducation biblique un peu spéciale, parce que nous avons invité donc les familles, les amis, pour une journée ensemble avec les enfants. Donc nous allons aller pique-niquer aux Tuileries, parce que manifestement le temps s'y prête, on a de la chance. Et puis ensuite, nous reviendrons ici et on terminera par un goûter en face. Alors, je crois qu'il y a une annonce voilà, par les routiers, puis par la patrouille des loups aussi. Donc d'abord, peut-être les routiers, l'équipe d'éclaireuses et éclaireurs aînés qui vont partir à Madagascar.
À Alors bonjour, donc déjà pour ceux qui ne me connaissent pas ou ne connaîtraient pas la route oratoire, donc on est un groupe de 6 jeunes qui partons cet été à Madagascar pendant un mois au mois de juillet. Et donc vous nous avez peut-être vus au cours des 2 dernières années parce qu'on était assez présents, on a fait pas mal d'actions. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que le départ est dans 2 semaines. Et pour dire un grand merci à tout le temple de l'oratoire en fait. Et à tous les paroissiens qui nous ont beaucoup aidés au cours de ces 2 ans. Et donc c'est vraiment beaucoup grâce à vous que ce voyage peut se permettre. Et donc là, je ne vous cache pas qu'on est un peu dans une phase, comme l'a dit Marc, et de gratitude aussi par rapport à l'oratoire. Donc voilà, encore une fois, merci. Et je vous annonce et vous invite d'ores et déjà à la rentrée, à la restitution de l'action. Donc on espère qu'il aura eu le sens qu'on lui accorde.
Merci beaucoup. Puis pour le travail que vous accomplissez là-bas, je veux dire vraiment pour nous, on est reconnaissant de ce que vous allez faire donc dans cette grande île. Merci. Donnez-nous des nouvelles pendant l'été si possible. Ah, maintenant c'est la patrouille des loups, je crois.
Bonjour, nous sommes donc la patrouille des loups. Donc c'était juste pour vous prévenir que nous vendons donc des gâteaux à la sortie du temple pour financer l'achat de matériel pour le camp qui arrive cet été. Donc on vous invite donc à passer pour nous prendre des gâteaux, si vous voulez. Merci.
Merci beaucoup à vous tous. Et puis on souhaite donc un bon camp aux jeunes qui vont pouvoir camper cet été au mois de juillet. Voilà, avec plein de beau temps. Merci. Alors sinon, comme autre nouvelle, voilà, pour cette semaine, il y a d'autres annonces, non, c'est bon. Bon. Il y a donc une exposition du groupe protestant des artistes. C'est de lundi à vendredi, de 15h à 18h ici même. Alors il y aura un vernissage mercredi à 18h. Donc c'est les œuvres de ce groupe protestant des artistes qui seront exposées avec Jean-Marcel Lèbre. Mardi 17 juin, donc mardi prochain à 19h30, il y a le groupe d'étudiants qui se réunira et jeunes actifs qui se réunira en face aux 4 rues de l'Oratoire. La question du jour, c'est le statut des Écritures. Donc on partage un peu un dîner ensemble et vous pouvez apporter quelque chose de salé, de sucré, de boisson si vous pouvez. Et puis on se retrouve avec joie donc mardi 17 à 19h30, les étudiants jeunes actifs. Mercredi, à 11h30, il y a des obsèques d'un jeune, donc Nicolas Schlumberger, qui aura lieu ici, donc malheureusement, à 11h30. On pense bien à la famille Schlumberger, Olivier Larousse, autour de ce drame terrible. Samedi 21 juin, il y a la fête de la musique. À 18h, il y a ici un concert spirituel, donc une cantate de Bach pour la Trinité, avec une méditation, comme d'habitude. Et puis le soir, à 20h30, il y a chant et orgue avec Sylvie Jugnot et puis Jean-Dominique Pasquet et Aurélien Péter, nos organistes, qui vont nous réjouir donc encore avec de la musique d'orgue et puis porter un témoignage donc dans la ville pour la fête de la musique. Dimanche prochain, 22 juin, il y a le culte avec une prédication par James Woody. Et puis on peut déjà noter à l'avance dans nos tablettes, donc pour jeudi 26 juin, à 20h, je crois, le concert du chœur de l'oratoire, avec au programme du Purcell et puis un requiem de Malcolm Archer. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est un moyen de témoigner de notre reconnaissance, de notre louange et manifester aussi notre solidarité. Nous prions Dieu. Pour tous les enfants de par le monde, pour qu'ils trouvent l'amour d'un père ou d'une mère pour les accueillir. Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté, qui sont blessés ou tués par la haine ou la négligence, afin qu'ils trouvent la paix et la joie. Notre Père, nous te prions pour les enfants qui sont handicapés, afin qu'ils trouvent toute leur place auprès de nous. Nous te prions pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, afin qu'ils sachent que toi, leur Dieu, les aime, leur veut du bien et leur veut du bonheur. Notre Père, nous te prions pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à te remercier pour leur bonheur et à en faire profiter ceux qui les entourent. Dieu notre Père, nous te prions que ton amour veille sur les enfants partout dans le monde. Enfants dont nous faisons partie, que ton amour nous fasse grandir dans ta grâce et unis avec tous les autres êtres humains en qui nous reconnaissons, grâce à toi, par toi, des frères et des sœurs, nous te disons la prière que le Christ nous a proposée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et chacune, chacun, nous pouvons recevoir la bénédiction que Dieu nous adresse et qu'il nous envoie porter dans le monde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec nous, ô Dieu Sauveur.